Audrey qui est en vacances. Elle va revenir d'ici 2-3 semaines. Elle relaxe. Elle a de la belle température. J'espère qu'elle en profite.
Ben écoute, elle est allée faire un tour à ce qu'elle appelle la maison, la Côte-Nord. Puis ça semble avoir été de magnifiques journées. Tu sais, des petites stories Instagram avec le chien dans la boîte de pick-up. On dira pas que le chien avait l'air d'avoir la peur de sa vie.
Non.
Mais ça avait l'air d'être un beau moment.
Mais c'est ça. Ils vivent leur best life.
Mais c'est parfait. On leur souhaite. C'est mérité. Audrey, elle travaille très, très fort.
Elle a dit qu'elle est là en remplacement. Actuellement, sur Québec, on est gâté côté température. C'est un genre de 16 degrés comme température. Ensoleillé, c'est ce qu'on nous mentionne. Maximum de 23 pour ce qui est d'aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, ce sera généralement nuageux avec des petits vents à 60 km/h, minimum de 10 degrés. Pour ce qui est de demain, jeudi, c'est les averses qui devraient cesser en matinée. Ce sera une alternance de soleil-nuages par la suite, avec des températures stables à près de 10 degrés. Vendredi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 10. Et si je me fie au week-end, Québec sera pluvieuse samedi avec un maximum de 7. Et dimanche, ce sera nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, maximum de plus 5 degrés. Tu as vu un documentaire sur l'humour sur RAD, donc c'est le petit frère de Radio-Canada, au sujet du comment, du pourquoi, comment essayer de devenir humoriste. Et c'est Nicolas Pham qui était l'auteur de ce documentaire-là.
Oui, exactement. Je ne sais pas si tu connais un peu le travail de Nicolas, mais avec RAD, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se donner un nombre de temps pour vraiment expérimenter les choses lui-même pour mener à quelque chose. On l'a vu essayer de devenir un MMA fighter. On l'a vu essayer de se mettre riche avec la vente pyramidale, ou devrais-je dire le marketing de réseau, Yannick. Et là, ce qu'il a essayé de faire, c'est de devenir humoriste au Québec. Alors, en quelques mois, il est passé par 3 chemins différents qu'il pourra nous expliquer pour essayer de devenir humoriste. Et j'ai bien hâte de voir si cela a fonctionné, parce que je pense qu'il aurait bien aimé ça être humoriste dans la vie, Nicolas. On en reparlera.
Peut-être, mais je regarde le titre, là, comment essayer de devenir humoriste. Je pense qu'au début, il avait choisi le titre « Comment devenir humoriste » puis que ça n'a pas super bien été.
On va voir. Salut Nicolas, merci d'être avec nous.
Salut Nick.
Allô?
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
C'est incroyable ce que tu fais comme job à RAD. Devenir MMA fighter, on va se le dire, c'est vraiment pas évident, puis t'es passé au travers. Expert en vente pyramidale, tu nous as bien fait rire. Là maintenant, c'est comment essayer de devenir humoriste. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête d'essayer ça?
Ben, c'est un vieux rêve que j'avais, tu sais, en toute transparence, en grandissant, tu sais, je m'étais jamais imaginé devenir journaliste. Je suis devenu comme ça un peu au gré du vent, si on veut. Puis l'humour, c'est je m'imaginais vraiment sur scène quand j'étais petit et tout. Puis là, j'ai déménagé, en fait, de Québec à Montréal, moi, il y a une quinzaine d'années, pour faire les auditions à l'École nationale de l'humour. Puis, tu sais, j'ai prouvé à mon vieux père vietnamien que ça servait à rien d'étudier en médecine, puis que j'allais devenir un artiste. Puis, écoute, ils m'ont pas pris. Fait que là, j'étais un peu débité. Fait que j'ai fait un long parcours qui m'a amené en journalisme. Mais c'était un peu une espèce de dossier à finir, ça. Tu sais, je suis très heureux de ma carrière en ce moment parce que je suis capable de faire de l'humour dans le journalisme. Puis ça permet de rendre ça intéressant. Mais j'avais envie de régler mes comptes, finalement. Puis tu sais, comme tu l'as dit, la série que je fais, Cobaye, Arad, tu sais, je me mets dans la peau des gens, tu sais, à qui je m'intéresse. Fait que l'humour, a priori, ça m'intéressait d'un point de vue journalistique parce que c'est un immense domaine artistique au Québec. C'est le plus populaire, c'est le plus lucratif. Les humoristes sont partout. Puis l'industrie s'est transformée ces dernières années de telle sorte qu'on a l'impression que c'est un métier qui est plus accessible que jamais. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là aussi quand vous ouvrez votre cellulaire. Mais on a l'impression que tout le monde fait son petit comique, ouais, puis que tout le monde est un petit peu humoriste sur les réseaux sociaux. Puis il y en a qui passent par les réseaux sociaux puis qui se ramassent sur scène aussi ou à Big Brother ou un peu partout parce qu'ils deviennent très vite connus. Fait que bref, je me suis dit, c'est le temps de faire un portrait de cette industrie-là dans un documentaire journalistique, mais je vais pouvoir incarner l'humoriste, fait que ça va m'amener à retourner à l'École nationale de l'humour,
ouais,
puis de rentrer par la porte en avant.
Est-ce qu'il y avait une certaine peur? J'ai un de mes chums qui est un ancien infirmier aujourd'hui à la retraite, et ça fait 3 fois qu'il monte à Montréal se ridiculiser, là. Puis,
oh. Wow, t'as beaucoup d'estime pour son travail!
Tous ces chums, ils disent, là, arrête, ça fonctionnera jamais, mais il continue à aller à Montréal, il arrive dans la salle, il y a peut-être 30, 40, 50 personnes, puis il essaie de faire son petit numéro. Puis à chaque fois, il revient. Puis même, il l'écrit sur Facebook. Là. J'ai été à Montréal, 3 minutes, je me suis ridiculisé. T'avais-tu cette peur-là de finalement pas avoir l'effet escompté, l'effet que tu voulais avoir devant les gens?
Ben c'est ça, tu l'as dit tantôt. Quand j'ai essayé il y a 15 ans, en fait, la raison pourquoi je suis journaliste, évidemment, c'est que ça n'a pas marché il y a 15 ans. Puis j'ai commencé à faire des petits shows dans les bars, puis je me pétais la gueule, puis à un moment donné, j'ai juste arrêté de croire dans mon rêve, puis j'ai arrêté.
J'espère que tu avais des amis flatteurs avec toi, comme Yannick avec son ami.
Mais tu sais, je ne veux pas qu'on pète ça là-dessus, mais c'est important quand même de dire la vérité, parce que tu sais, c'est un ami qui fait de la musique, quelque chose, puis il n'est pas bon, puis il dit « Hey, sais-tu quoi, je vais hypothéquer ma maison, puis je vais me lancer là-dedans. » Des fois, ça vaut la peine de dire « Hey, pense-y, là, tu sais, t'es-tu sûr? Ça rit-tu dans la salle, tu sais? »
Ouais.
Bref, j'avais pas été bon, puis je me demandais si j'allais être capable, 15 ans plus tard, de franchir les obstacles que j'avais devant moi, puis que j'étais pas capable de franchir. Puis je me disais, vu que maintenant, je suis habitué de travailler un peu plus devant la caméra, parler dans des micros, ah, je vais être plus à l'aise, tu sais. Mais ça m'avait pas rendu drôle, ça, nécessairement, entre-temps. Puis l'art du stand-up, c'est un art en soi qui s'apprend juste. Sur scène, il faut que tu le fasses, puis que tu le fasses, puis pour que tu comprennes, tu sais, comment faire des jokes, puis comment avoir une prestance sur scène et tout. Fait que bref, tout ça pour dire que je me suis encore pété la gueule comme je me pétais la gueule, mais ce que j'ai fait de différent cette fois-ci, c'est que j'ai fait mes devoirs. Tu sais, j'étais allé lire des livres, puis la théorie sur comment on construit une blague. Puis... Parce qu'il y a une science derrière ça qui n'est pas très, très compliquée, en fait. Il faut que tu fasses un setup, il faut que tu fasses un punch. À partir de ce moment où tu as compris ça, tu es capable d'écrire des unités de blagues de base, puis de bâtir là-dessus, tu sais. Fait que c'était quoi déjà ta question? Si j'avais peur, j'ai eu peur, puis c'est que ça fait tellement mal d'être devant des gens qui ont payé pour rire, OK, dans une salle, là. Ils te fixent avec des petits yeux de raton laveur, là, tu sais, comme tu vois des caméras de serrure. Ils te regardent, puis toi, tu dis 2-3 phrases, ils rient pas. Là, tu le sais, là, que t'es en train d'échouer. Puis là, tu perds confiance. Puis là, la foule, elle se retourne contre toi, parce qu'ils sentent comme un animal blessé, là. Puis ça devient l'enfer, tout le monde regarde à terre, puis tu t'imploses, tu sais.
Tu sais, entre chums, des fois, Nicolas, on se raconte des jokes puis on la raconte à l'envers. Puis là, ben, tu sais, je te l'ai raconté à l'envers.
Ah, ou tu sais, la fameuse phrase, ouais, mais c'était le fun quand t'étais là, c'était drôle.
Ah, il fallait être là.
Ah,
oh,
non,
ah,
non.
Tu peux pas dire ça sur une scène, là, non. Devant 100 personnes.
Puis t'avais un texte à apprendre, bien entendu. Moi, j'en reçois régulièrement des humoristes. J'avais Louis T hier, d'ailleurs, un humoriste que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais par son nom. J'avais vu quelques petits shows de Louis T, mais je le connaissais pas personnellement. Puis hier, on a passé 60 minutes. Puis lui, ça y arrive jamais d'oublier son texte. Là. Alors qu'il y en a qui régulièrement sont sur scène puis ils se disent « Oh, attends un peu, il y a du monde devant moi. Je suis rendu où? À quel endroit? »
Moi, des fois, j'oublie de parler à la radio.
Il y a des gens dans la salle, qui leur parlent pendant qu'ils sont en train de faire leur show.
Ouais.
Ça doit être extrêmement déconcentré. Tu parlais des gens qui te regardaient avec des petits yeux un peu suspicieux. « Vas-tu me faire rire? » Ou « Nicolas me fera pas rire à soir. » Se contrôler à l'interne, ça doit être assez particulier quand tu es le seul sur stage. Parce que si tu te plantes, tout le monde le voit. Là.
Ouais. C'est quand même...
Ah ouais, mais tu parlais de mémoire. Excuse-moi, je vais pas te couper.
Ah non,
tu parlais de mémoire. Il dit ça, puis il recoupe tout de suite, tu sais. Non, mais tu parlais de mémoire. Moi, là, j'ai oublié mon texte à chaque fois que je suis monté sur scène. J'ai un problème avec ça. Tu sais, j'ai un bon TDAH quand même, là. Fait que c'est un peu ma phobie de comme me perdre dans mes pensées. Puis j'ai beau le pratiquer 100, 150 fois, mon texte, le répéter. Il se passait tout le temps quelque chose. On le voit dans le docu, là, au gong show, au bordel. Même affaire, tu sais, je prends un petit air d'aller, puis à un moment donné, j'oublie complètement où je m'en allais. Puis là, je regarde à terre, je suis comme... Fait que c'est... Je sais pas s'il y a une solution à ça. Outre d'avoir que de me pratiquer, mais tu sais, ça m'est arrivé quand même continuellement. Là.
Tu parles, on parle de l'aspect de la scène beaucoup, mais il y a comme 3 façons de devenir humoriste que tu explores dans ton documentaire. Bon, il y a la scène, t'es monté plusieurs fois, t'as même pris quelques conseils d'humoristes d'expérience qui partageaient la scène avec toi et tout ça au bordel, au gong show. Mais il y a aussi les médias sociaux, puis il y a l'École nationale de l'humour là, que t'as visité. C'est-tu plus facile d'être sur les médias sociaux? Tu sais, t'es pas devant les gens, mais à la fois, tu deviens un peu ton principal critique parce que ça prend quand même du courage de se mettre comme ça sur les médias sociaux.
Mais c'est vraiment intéressant, cette question-là. Puis j'ai toujours pas tranché parce que, tu sais, c'est n'y a pas de réponse. C'est pas blanc ou noir, là.
Non.
On a l'impression que c'est un espèce de shortcut, là, les réseaux sociaux. T'sais, avant, il fallait que tu te fasses connaître sur scène. Pendant des années, à un moment donné, quelqu'un te prenait puis te mettait dans un gala juste pour rire, puis là, t'accédais à la notoriété, là, puis ta carrière était faite.
Puis là, tu peux devenir
Maintenant,
animateur radio millionnaire.
exactement. Puis là,
Yes!
maintenant, peut-être, au lieu de faire ça, tu peux juste te partir un compte TikTok ou Instagram, puis il y en a qui se ramassent avec. Ils font des petits sketchs, là, tu sais, comme un peu n'importe comment, puis qui se ramassent avec 75, 100, 150 000 abonnés. Puis ces gens-là, maintenant, on les voit sur des émissions de télé-réalité, on les voit sur des plateaux de télé, de radio. Tu sais, ils accèdent au show business comme ça. Fait qu'on a l'impression que c'est un raccourci. Mais l'affaire, c'est que t'as beau être bon sur les réseaux sociaux, tu sais, le stand-up puis les réseaux sociaux, c'est deux mondes complètement. C'est deux arts distincts.
Oui.
Tu sais, c'est deux mondes différents avec leurs codes différents, avec leurs techniques différentes. Puis t'as beau être bon sur TikTok, puis peut-être que tu vas être capable de vendre 500 billets pour ton premier stand-up, puis de remplir une grande salle. Mais est-ce que tu vas être drôle sur scène pendant une demi-heure, puis tu vas pas choquer, puis oublier ton texte, puis tu sais, c'est pas garanti. Mais ça se peut, parce que si tu as trouvé une twist pour être drôle sur les réseaux sociaux, tu as sûrement il y a quelque chose que tu es capable de comprendre sur l'humour, puis tu es capable d'être drôle, puis il y en a qui s'essayent, tu sais, sur TikTok, puis ça lève pas du tout, là, tu sais. Fait que, on a l'impression que c'est un shortcut, mais les preuves restent à faire. Mais ce qui est certain, c'est que tu as parlé de l'École nationale de l'humour aussi. C'est que maintenant, les jeunes qui se lancent, moi, c'est ça qui me fascine le plus. Premièrement, j'ai un immense respect pour les humoristes après avoir passé à travers de leur chemin de croix, de m'être trempé l'orteil dedans. Mais c'est déjà difficile de conquérir le monde de la scène. C'est déjà le travail d'une vie. Là, tu te dis qu'en même temps, tu n'as comme pas le choix d'apprendre à être bon pour filmer, monter, publier, puis diffuser, puis tout. Parce que si tu ne le fais pas, bien, ta compétition le fait. Fait qu'il y a des gens qui, au bout de leurs doigts, ont 150 000 personnes qui achètent tous leurs billets. Puis toi, tu te dis non, non, moi, je vais être old school. Là. Je vais passer par la scène. Puis, tu sais, je veux dire, tu n'as comme pas vraiment le choix. Puis, si tu vas à l'école de l'humour, me le dites si je parle trop à moi, j'ai une grande gueule, puis
On
après,
adore
m'arrêter.
ça. J'ai pas besoin de poser mes questions.
Oui,
Tu
c'est
dis
ça.
tout où est-ce que je veux t'amener. Fait que c'est excellent.
T'avais les yeux fermés, je me suis dit. Ouais.
Non,
Mais
j'ai pas les yeux fermés. Je suis levée depuis 3h50.
Ah
Non,
non!
mais t'es dans la.
Je regarde l'écran en bas de la caméra, OK?
Tu reposes tes yeux.
Je suis
Tu
pas
vas à l'École
gênée.
nationale de l'humour. OK, puis tu es étudiant là, ou étudiante, là, à temps plein, tu fais des cours, tu explores ta créativité artistique, tu apprends le théâtre, l'improvisation, blablabla. Le soir, tu as des devoirs. Là, en plus, il faut que tu montes sur scène pour apprendre par toi-même parce que tu n'as pas le choix de passer par là. Puis là, en plus de ça, il faut que tu checkes plein de TikTok et d'Instagram, tu te pars un compte, tu te filmes, tu te montres. Ça fait trois affaires à faire en même temps, tu sais. Fait que j'ai vraiment de l'empathie pour les jeunes humoristes qui commencent en 2024 puis qui sont comme. C'était quasiment plus clair avant le chemin. T'sais. Gars, je fais ça, je fais des jokes, je deviens bon. À un moment donné, un tel, c'est un scout de juste pour rire, il va me remarquer. Mais là, c'est comme, faut tout que tu fasses en même temps, en compétition contre plein de monde qui le font déjà puis qui sont super bons. T'sais.
T'as côtoyé des jeunes humoristes de la relève. Est-ce qu'ils trouvent ça dur, le chemin à parcourir pour arriver à des succès comme Martin Matt ou Louis-José Hood ou les autres grands humoristes du Québec?
Ben, tu sais, quand j'étais à l'École nationale de l'humour, moi, ma perception, c'est qu'il était quand même anxieux. Puis c'est ce que Louise Richer, tu sais, je ne vais pas parler pour eux, mais Louise, la directrice générale de l'ENH, me l'a dit à propos de ses étudiants. Elle dit, tu sais, puis cohorte après cohorte, ils sont très, très, très anxieux. Puis ils se remettent beaucoup, beaucoup en question parce que c'est un métier fondamentalement où il y a beaucoup d'incertitudes. Puis maintenant que la responsabilité de comme gérer sa carrière, puis de s'autoproduire, s'autodiffuser sur les réseaux sociaux est entre les mains des jeunes humoristes, bien, ça augmente cette pression-là, tu sais. Mais par contre, à travers ça, j'ai trouvé que tout le monde a quand même, tu sais, une détermination que ça prend aussi, parce que sinon, tu ne te lances pas là-dedans, mais ils ont l'impression, puis peut-être pas la certitude, mais confiance qu'ils vont être capables de trouver leur twist, puis de tirer leur épingle du jeu là-dedans, tu sais, sinon, ils ne le feraient pas.
Ça serait-tu ça le point en commun qu'ont les gens que tu as rencontrés puis qui ont percé dans le milieu de l'humour, la détermination au-delà de juste être drôle? Ça a l'air d'être des personnes très travaillantes. Puis peut-être que
Ouais.
j'ajouterais à ça, tu sais, accro à la performance.
C'est certain, ben, c'est ça qu'elle disait, Louise aussi. Elle disait, tu sais, ceux qui réussissent dans ce domaine-là, là, puis c'est peut-être ça que les gens, ça, dont les gens ne se doutent pas nécessairement, c'est que c'est des bourreaux de travail, là. C'est du monde qui travaille sans relâche, même les plus aguerris, mais ils sont tout le temps en train de redescendre un peu l'escalier des soirées d'humour pour aller tester des nouvelles blagues. Puis, t'as beau être Louis-José Hood, si tu vas au bordel, je me faisais dire ça, t'as beau être Louis-José Hood, tu viens ici, t'as un crédit, t'as quelques minutes, okay, c'est Louis-José Hood, tu surfes là-dessus. Mais si t'es pas drôle ce soir-là, t'es pas drôle, là. Fait que c'est pas un passe-droit, faut que tu reçois drôle, tu comprends? Blague après blague, faut que tu livres la marchandise. Fait que c'est pas genre tu le fais puis tu te fais connaître après ça, tu surfes là, tu sais. Faut constamment que tu te reprouves puis que tu renouvelles ton matériel puis que tu te
À
en tout
chaque
cas.
jour, tu tentes de conquérir ta foule. Même peu importe
Ouais,
t'es
c'est
qui
ça.
au bordel, ça se peut que les gens soient
Oui.
extrêmement cruels. Puis, tu sais, tantôt, j'ai dû décrocher parce qu'il fallait que j'aille lire des textos pour les gens qui voulaient te poser des questions. Ça peut être particulier des fois d'apprendre que des humoristes bien établis en Amérique du Nord ou encore en Europe puissent aller sur d'autres continents voir d'autres shows, OK? Puis c'est arrivé à un humoriste que moi j'adorais quand j'étais jeune, puis quand j'ai su ça de lui, c'est un excellent acteur, soit dit en passant, là. Quand j'ai su ça de lui, j'étais déçu, Robin Williams. Robin
OK.
Williams faisait des stand-up, c'était le meilleur dans son art aux
Ben,
États-Unis.
certainement.
Et même là, il allait dans des bars de New York, s'assoyait au fond de la salle complètement, avec sa petite calotte sur la tête, son petit gilet capuchon. Il allait écouter des jeunes humoristes de la relève pour prendre ses jokes, pour prendre les jokes, pour s'inspirer d'eux.
Mais comme plagier, tu veux dire,
Ben,
ou...
carrément
Ouais, c'est
plagier.
ça,
C'est
plagier
arrivé.
ou s'inspirer?
C'était pas. Ben, lui, il a toujours
Ben,
dit
ça
que c'était
change tout.
s'inspirer, mais quand c'est fait dans l'ordre, là, tu les superposes, c'est à peu près la même
Ouais.
mécanique.
On a vu ça, hein, récemment
Ouais,
aussi.
Gad Elmaleh, aussi,
Ouais.
qui est un humoriste français, a fait à peu près la même
Ouais,
affaire.
plus
Lui,
très populaire ici, lui.
il disait, ouais, mais c'est parce que je leur rends hommage.
Ouais.
Je leur rends hommage, mais non, c'est des.
Sans les citer.
Puis, tu sais, il y a tellement d'humoristes dans le monde que ça se peut. Puis, c'est arrivé, je sais pas si c'est arrivé. C'est-tu Louis T qui me racontait ça? Ah non, c'est un autre humoriste que j'ai parlé, là, 2 semaines. J'étais en train de perdre son nom, mais il m'a dit pendant la pandémie, il est arrivé quelque chose au gouvernement. Puis, j'ai eu le même flash qu'un autre humoriste, sauf que lui, il s'est enregistré sur vidéo. Puis, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, hey, je peux plus faire ma joke. Il est sur vidéo. J'aurais pas de preuve que c'est ma joke, alors qu'ils sont dans la même province, là. Les deux étaient à Montréal.
Ben, tu sais, si je me trompe pas, puis là, ben, toi, t'as expérimenté le monde de la joke, puis tout ça, on s'inspire du quotidien, on s'inspire de
Ouais.
l'actualité. Je veux dire, on peut pas faire le tour, mais ça se peut que ça arrive, non?
Oui, mais c'est ça. Mais là, on a déjà plein d'affaires. Tu sais, c'est que je pense que les plus aguerris vont aller s'inspirer puis confronter peut-être, en tout cas ceux qui sont vraiment dédiés, leur matériel avec des nouvelles propositions, des nouvelles visions. Si tu reprends la joke de quelqu'un, ben là, c'est du plagiat, puis tu sais, ça, c'est 100% condamnable. Après ça, ben, tu viens de le dire, il l'a dit, c'est 100% possible et beaucoup plus probable qu'on pense qu'on ait un peu les mêmes idées. Tu sais, je veux dire, tu prends l'avion, ben, quand l'hôtesse de l'air fait ses petits gestes, ben, tu sais, c'est sûr que tu remarques ça. Hey, un exemple là, facile, les caisses où est-ce qu'on paye nous-mêmes à l'épicerie. Moi, j'en ai vu quatre, là, des humoristes de la relève au Québec faire un numéro là-dessus. Ben, pas un numéro là-dessus, mais il y avait une joke là-dessus. C'était jamais exactement la même, mais ça voulait tout à peu près dire. Ben là, c'est quoi? Tu sais, c'est nous qui travaillons pour l'épicerie. On a tous un peu remarqué ça et tout. Fait que, tu sais, je pense que c'est sûr que si tu veux éviter ça, ben plus que tu trouves une niche où est-ce que les autres vont comme pas piger, puis plus que tu parles, mettons, de ce qui te touche toi, peut-être ça risque moins d'arrêter. Mais ça vaut quand même la peine de penser à deux fois avant d'assumer que quelqu'un a plagié, à moins que ce soit mot pour mot, parce que c'est quand même assez possible que ça arrive, tu sais.
Ouais, je pense, Mike Ward était parti sur une guerre avec Gad Elmaleh, là. Il mettait la joke de l'humoriste américain en dessous, puis il y avait Gad Elmaleh en haut, puis il les superposait, puis c'était dans le même ordre, là. Ça pouvait pas faire autrement. C'était pas de l'inspiration, mais Gad Elmaleh a réussi à s'en sortir, du moins en Europe. Hey, en tant que journaliste de rade, là, est-ce que ça t'a rendu riche, l'humour? Parce qu'on a comme cette idée-là que tous les humoristes sont multimillionnaires, alors que c'est totalement faux, là. Il y en a quelques-uns, effectivement, qu'ils le sont, mais les autres sont encore d'un bord, puis des fois, la seule paye qu'ils peuvent avoir quand ils commencent, c'est la caisse de bière, là.
Ben oui, c'est ça. Moi, tu sais, la plupart des soirées que j'ai faites, c'était zéro. Ben, tu sais, premièrement, je le disais aussi aux
T'as
gens,
même pas
regarde,
réussi à gagner une scène avec ça.
Non, non, mais attends, j'ai pas pris. Moi, je prenais pas de cachet aussi parce que vu que c'était une démarche journalistique, je
Ben
pouvais
oui,
pas.
ben oui.
Mais oui, anyway, je me privais pas de grand-chose parce que c'était zéro pour la plupart, des fois 20$. Des soirées, ça aurait peut-être été 40$. Mais à
Ouais.
la fin, les soirées où je jouais, c'était de niveau plus élevé que ce que je valais. C'est juste que les gens étaient down de me laisser y aller
OK.
pour que contribuer au documentaire. Fait que j'ai joué dans des soirées où j'aurais en théorie gagné comme 100, 150 $
Ah, oh, quand
pour
même.
un 20 minutes. Mais tu sais, j'ai pas 20 minutes de stock, là. Mais si j'avais été un des vrais humoristes qui était là, j'aurais fait 150 $. Puis les gens, ce qu'ils font là, c'est qu'ils font cette soirée-là. Le taxi, il y en a qui les attendent là, en avant, ils sautent dedans, ils vont au bordel, puis ils font un autre numéro à 150 là. Fait que tu sais, je veux dire, c'est comme
Hey.
ça qu'il y en a qui jouent trois fois dans la même soirée. Là.
OK,
Ils se
ah ouais.
textent dans le groupe Messenger des PC de la soirée, ils vont dire, hey, mais moi, dernier, j'arrive à telle heure, puis ils peuvent débarquer comme ça. Puis même en plein cours de soirée, ils se font dire, ah, il y a un numéro à faire dans tel bar, puis zoomer à l'autre place pour faire un 10 minutes comme ça.
C'est des fois ce qu'il faut
Je
faire.
sais pas comment ils font.
Non, c'est quelque chose. Ben justement, vu qu'on est revenu à ton expérience personnelle, as-tu envie de continuer un peu à faire de l'humour? Parce que là, bon, il y a peut-être une petite porte pour Open Micers qui est ouverte. On t'a vu faire des blagues sur tes médias sociaux aussi. As-tu
Ouais.
envie de continuer ça ou c'était vraiment une expérience journalistique?
C'est sûr que j'arrêterai pas, tu sais, d'essayer d'être drôle, puis surtout que maintenant, je catch mieux comment. Mais tu sais, j'aimerais ça continuer dans ma job de journaliste à rendre ça le plus drôle possible parce que tu sais, je trouve que c'est ça ma mission à rad. Puis c'est important, là, les gens s'intéressent de moins en moins aux journalistes. Puis moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'est parce que. C'est vraiment, ça pouvait être quand même sérieux, puis ça peut quand même être plate. Fait que si ça peut être un peu divertissant, tant mieux. Mais c'est certain que le dossier n'est pas fermé, là. Un jour dans ma vie, je vais me retrouver sur une scène, tu sais. Je vais pas abandonner ce rêve-là, tu sais. C'est pas pour tout de suite, mettons.
Mais tu sais, Nicolas, tu dis que les gens s'intéressent de moins en moins au journalisme. Je pense que ton produit, ce que tu fais, c'est-à-dire t'intéresser à la MMA puis devenir un MMA fighter, de t'intéresser justement à la vente pyramidale puis d'essayer de devenir un expert, tu sais, que tu sois sur n'importe quelle plateforme, je pense que moi, je l'écouterais puis je suis pas le seul, là. Je veux dire, tu fais du journalisme différent puis je pense que les gens sont rendus là aujourd'hui d'entendre de nouvelles personnalités qui font du journalisme non conventionnel puis qui sortent de la traque. Moi, j'adore ce que tu fais. J'ai pas vu le documentaire au grand complet. C'est Hello qui s'est tapé le documentaire au complet. On
Ah,
peut le voir sur. On peut
un
le
gros
voir. On
devoir.
peut le voir à quel endroit?
C'est sur la page YouTube de Rad, RAD, juste à googler ça sur YouTube, Rad
Ouais.
humoriste, puis vous allez trouver ça.
Voilà. Puis là, bon, c'est quoi ton prochain défi? Tu sais-tu? Devenir
Oh,
père.
mais non, mais il y en a un autre pour bientôt, c'est la chasse.
Hein?
La chasse!
Ouais, j'étais allé chasser l'orignal dans les chic-chocs, puis la bernache, puis le canard, puis je me suis donné le défi de tuer des animaux parce que je mange la viande, mais c'est un peu hypocrite, tu sais, il n'y a pas de face à la viande que j'achète à l'épicerie. Fait que je me suis demandé si t'es game d'assumer le fait que tu manges la viande, faut que tu sois game d'aller la chercher sur un vrai animal. Fait que j'ai fait ça, là, puis là, je suis en train de monter ça pour
Ouais.
sortir ça le mois prochain.
Tu vas-tu me dire que tu as choqué ça aussi, puis là, le titre de ton documentaire, c'est Essayer d'être un chasseur?
Comment essayer de chasser et se tirer dans le pied?
Ça a été un plaisir de jaser, Nicolas.
Yes, un gros merci à vous.
À la
Merci, à la
prochaine.
prochaine.
Bye-bye. L'excellent Nicolas Pham de RAD, qui est le petit frère de Radio-Canada. Son documentaire, vous pouvez le voir sur YouTube. C'est Comment essayer de devenir humoriste. Puis c'est assez particulier, là. Je veux dire, on ne sait pas comment ces gens-là font, si ce n'est que de passer par l'École nationale de l'humour. Moi, j'ai quelques chums qui l'ont essayé, puis ça n'a jamais vraiment développé. J'en ai un que je salue, parce que je suis pas mal persuadé qu'il nous écoute, qui est un ex-infirmier à la retraite aujourd'hui, 65 ans. C'était mon goaler au hockey. Puis il se
Je sais
dit.
tellement de qui tu
Ben, tu sais de
parles.
qui je
Ben
parle, là.
oui, ben oui.
Fait que, tu sais, c'est un illustrateur aussi. Il est
Oui.
rempli de talent. Puis lui, il aime ça, tu sais, essayer de devenir humoriste. Fait qu'il va se péter la gueule à Montréal, puis il redescend. Puis là, il nous le dit. Me suis pété la gueule.
Je n'aurais pas le quart des guts de cet homme de faire ça.
Ouais.
Honnêtement, là, je vivrais. Personnellement, je vivrais très mal avec le fait de lâcher une joke puis que les gens rient pas. Tu vas me dire, je le fais à la radio à tous les jours, mais j'entends pas
Ouais,
que
mais.
les gens ne rient pas.
C'est ça, mais c'est le malaise d'être dans une salle devant, je sais pas, moi, tu prends la salle en bas, là, il y a 150 personnes, de te dire, hey, ça, cette joke-là, quand je vais la faire, tout
Ouais.
le monde va être plié en deux.
Ah.
Puis là, tu y vas, tu donnes tout ton pouvoir. Puis il n'y en a pas un qui rit. Puis là, t'entends comme...
Ah, mais je dormirai pas.
Tu sais, t'entends la barmaid dans le fond de la salle. « Vous voulez une Coors Light? »
Ah non, 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 non.
Le silence le plus total. Hey, nous autres, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée parce qu'Élodie s'en va.
Yes!
C'est Jeff Fortin qui va prendre ta place pour ce qui est de Marceau midi.
C'est là depuis 6 heures.
Denis Gravel sera dans le pit stop. On a plein de choses à vous jaser, donc restez là, les amis. Nous autres, on vous laisse avec Bob Bissonnette mettre du tape sur sa palette sur les ondes de boulevard. Ciao!